Dieu vous bénisse. L'Église, les salutations de l'Église de Newcastle, Priscille. En anglais ou en français? En français. Vous avez les salutations de l'Église de Newcastle. Comment on appelle les habitants de Newcastle? Ah! Faudra apprendre, hein? Ok. On va les appeler les Prisciloises, alors. Dieu vous bénisse richement. Père Céleste, nous sommes heureux ce soir de nous revoir encore en ce lieu où nous pouvons nous rassembler pour écouter ta parole. Et nous sommes heureux de recevoir des salutations lointaines de bien-aimés dont on ne s'est pas peut-être déjà vu, mais on se connaît en toi. On sait que ce sont des frères, des sœurs, et un jour nous serons tous rassemblés. Nous prions de les bénir également pour avoir pensé à nous. Nous te remercions d'avoir gardé notre fille là-bas pendant qu'elle était. Nous te remercions de cette réunion ce soir, de nous avoir permis de participer. Te prions de bien vouloir nous pardonner nos fautes. Te prions de bien vouloir nous aider à toujours demeurer dans ta parole, car c'est elle qui nous affranchira. La vérité de ta parole, car tu as dit si nous y demeurons, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous voulons être affranchis de tous les liens du monde, de tout ce qui peut nous ramener à une servitude qui devrait être révolue. Et nous voulons tout simplement marcher en toute liberté. Ainsi que disait l'apôtre, c'est pour la liberté que nous avons été appelés. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Pendant que nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Inspire-nous ta parole ce soir, exhorte-nous, comme les apôtres autrefois ont exhorté les frères et les sœurs, que, puisque nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, passe, Seigneur notre Dieu, que ces exhortations qui ont eu lieu autrefois puissent encore nous être utiles en ce jour. Nous attendons à toi et nous soumettons à ton esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien, nous allons lire ce soir dans 2 Samuel 24. Verset 11. 14. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombe entre les mains de l'Éternel. » car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Selon la parole, il allait de toute façon recevoir une des trois punitions. Alors, Il a demandé que Dieu lui-même choisisse entre les mains de l'Éternel, et l'Éternel va lui envoyer la peste. Ce soir, nous intitulons le sujet « Ses compassions sont immenses ». Il ne faut jamais oublier cela. Que avec Dieu, il y a toujours une voie de retour. Tant qu'on est croyant, vous savez, le péché impardonnable, le frère dit, c'est l'incrédulité. Si nous ne croyons pas, c'est sûr qu'on ne reviendra pas à lui. Mais tant que nous avons foi en lui, revenons toujours à lui, quoi que nous ayons fait. Ici, David reconnaît, il reconnaît que son péché était grand. Au verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il lui ait ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Que Dieu vous rejette, il ne vous rejette pas. Mais ça ne peut pas rester impuni. Compassion, avoir la compassion, ça veut dire partager la passion de quelqu'un, ses souffrances, ses douleurs. Ressentir ce que la personne ressent, c'est marquer ce qu'on dit, l'empathie pour la personne. Selon qu'il souffre ou qu'il a de la douleur, mais être conscient du mal qu'il a et avoir vraiment de la sympathie pour lui et ne pas être indifférent à sa situation, à sa misère. C'est vrai que quand Dieu est en colère, il manifeste souvent comme s'il était sans pitié sur le peuple rebelle. Par exemple, envers Israël, il dit à Israël, dans Zacharie 11, il y a plein de passages, hein. Mais on prendra juste ceci. Ouais. C'est moi ça. Zacharie chapitre 11, verset 3. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les produits destinés à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur berger ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai personne de leurs mains. Mais si vous continuez de lire dans le livre de Zacharie, vous allez voir que Dieu promet un esprit de grâce et de supplication. Ce n'est jamais terminé avec les siens. Les siens, ils bronchent, ils tombent, mais Dieu est toujours prêt à manifester ses compassions. Et ainsi, surtout suite au fait qu'il soit riche en miséricorde et en grâce, il montre de la compassion pour ceux qui le craignent. Quand vous craignez l'Éternel, c'est sûr que, comme David craignait l'Éternel, il a fait une gaffe, mais Dieu finit toujours par montrer de la compassion. Lorsque quelqu'un reconnaît ses fautes, lorsque quelqu'un s'humilie devant lui. dans Malachie 3. Nous disons de ces choses, c'est parce que pour que nous connaissions mieux l'Éternel, le Dieu que nous adorons. Il n'est pas là pour tout le temps châtier, mais il est aussi un Dieu de miséricorde. Dans Malachie chapitre 3, il dit ceci. Au verset 16. On peut commencer au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Dieu n'est pas indifférent à votre misère. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est un Dieu compatissant. C'est ainsi qu'il se présente à Moïse. Dans Exode 34, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » C'est une chose très importante et merveilleuse que de trouver grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il va demander à mieux connaître Dieu. Et ici, Dieu va se montrer à lui. Il va descendre, il va se présenter. Il dit, tu te mettras dans le creux du rocher. Et puis, il va descendre. 34, ici j'ai lu le chapitre 33, excusez-moi. Chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Cela ne veut pas dire que Dieu ne pique jamais de colère, si ça lui arrive. Sa colère peut s'enflammer contre quelqu'un qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité. On parle beaucoup d'iniquité, mais l'iniquité est pardonnable. La rébellion, il pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, mais il punit. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Non seulement ces compassions sont immenses, mais en fait, on n'arrive jamais à épuiser cela. nous n'épuiserons jamais ses compassions. David savait ça. Et il savait que s'il devait tomber entre ses ennemis, les ennemis allaient être sans pitié. Entre les mains de ses ennemis allaient être sans pitié vis-à-vis de lui. Tomber entre les mains des hommes, c'est une chose terrible. L'homme manifeste très peu de compassion. Sauf si, effectivement, il y a un lien fort entre deux personnes, alors effectivement, personne ne peut avoir de la compassion pour son parent, comme il est dit dans Malachie 3, nous venons de lire, comme un père vis-à-vis de son fils. Il a donné des conseils à son fils. Il a éduqué son fils. Il lui a montré le bon chemin. Mais le fils n'a pas écouté. Il en a fait qu'à sa tête. Et puis après, ça a mal tourné. Tant que c'est son fils, le père peut toujours encore manifester de la compassion. Il y a ce lien qui fait que ce lien de père à fils, qui fait que, ou fille, hein, qui fait qu'on a vite pitié, on est vite dans les chaussures de quelqu'un qu'on aime. Mais quelqu'un qui nous est indifférent, on se les épaules, on s'en fiche. Vous voyez ? Dieu n'est pas indifférent à notre misère ou à notre souffrance. Et surtout, si nous avons mal agi, la punition que va nous infliger l'homme est souvent, c'est souvent de manière plus tranchée que Dieu. L'homme, vous avez beau vous repentir, mais l'homme peut rester imperturbable. Par contre, Dieu est sensible au repentir de quelqu'un. Quand Acab a fait, enfin pas lui, mais c'est Jézabel qui l'a fait, mais c'est Acab le responsable, quand elle a fait tuer, comment il s'appelle encore, Naboth, ben, Dieu lui a envoyé le prophète Acab pour lui dire que toi et tes descendants, c'est fini. Mais Acab s'est humilié. Quand Acab s'est humilié, malgré tout le mal qu'il a fait, Dieu dit à Élie, tu vois comment il s'est humilié? Je ne ferai pas ça de son vivant. Amen. Vous voyez? Dans Luc 15, ça montre que Dieu est véritablement un père pour nous. Amen. Vous voyez ici, dans Luc 15, nous voyons dans la parabole du fils prodigue, au verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le papa a travaillé dur pendant des années et des années pour ses enfants. Et il leur a mis quelque chose de côté pour qu'eux aussi puissent démarrer dans la vie, comme il se doit. Mais, vous savez comment sont les enfants? Une fois que vous leur dites que vous en avez mis un peu de côté pour eux, c'est acquis. Donc, c'est devenu une dette. Et il vient tout simplement dire à son père, ben, donne-moi ce qui me revient, comme s'il avait travaillé pour. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Essayez un peu d'imaginer dans quel état il allait se mettre. Il a dû se mettre. Peut-être que ses habits étaient en lambeaux. Peut-être que de soigné qu'il était, il revenait avec une barbe hirsute partant dans tous les sens, avec des cheveux non peignés ou je ne sais pas. Ne s'étant pas lavé pendant tout ce temps-là, où il était dans la misère, et le voilà qui revient dans un état misérable. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. ne peut pas dire ce qu'il devait sentir. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit. Rien que le fait de le voir, il fut ému de compassion. C'était son fils, c'était la chair de sa chair. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et si nous, nous sommes frères et sœurs, nous sommes sœurs, nous devons aussi avoir de la compassion pour nos frères, pour nos bien-aimés. C'est la grande famille de Dieu. Lorsque un frère souffre, lorsque une sœur souffre, il est bon de ne pas être indifférent à la souffrance des uns et des autres. Et cette compassion peut être manifestée comment ? En vous poussant dans la prière en faveur de ce frère. Cette compassion peut se manifester aussi en vous enquérant de voir s'il n'a pas quelconque besoin que vous pouvez, n'est-ce pas ? Si vous en avez les moyens, que vous pouvez, n'est-ce pas, lui accorder de telle manière qu'il sorte de cette situation compliquée. Il n'est pas bon d'être bien à l'aise et que le voisin soit vraiment dans la misère. Alors, c'est caractéristique des chrétiens que de pouvoir éprouver de la compassion les uns envers les autres. Quand quelque chose arrive à quelqu'un ou à une famille ou à je ne sais pas moi, c'est savoir toujours se mettre à la place de ce quelqu'un. Qu'est-ce que la personne peut ressentir? Et quand vous vous mettez dans ses chaussures, peut-être vous ne chaussez pas la même pointure que lui, mais au moins vous comprenez que la personne est dans une situation compliquée. Ça va? Et ainsi, ça vous pousse à prier les uns pour les autres. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre dit « Priez pour tous les saints. Priez les uns pour les autres. Hein? » Dans Éphésiens 4, et si Dieu est aussi compatissant envers nous, c'est parce qu'il est riche en miséricorde. Et n'oubliez pas, Dieu nous demande, Jésus-Christ nous demande, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alors, dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Amen. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez, la compassion a ceci d'important. Daniel dit à Nebuchadnezzar, il dit, que on peut, dans Daniel 4, qu'il lui est possible de racheter ses iniquités par la compassion. Verset 24, Daniel 4, 24. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Donc Dieu a décrété quelque chose concernant le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Il était devenu orgueilleux. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à ce qui lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tu redeviendras roi quand tu vas reconnaître qu'il y a un roi plus élevé que toi. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Maintenant, le prophète ici, Daniel, va lui donner un conseil. Mets un terme à tes péchés. Si tu veux redevenir roi, hein, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Non pas en décidant à partir d'aujourd'hui, non. Pratique la justice. Mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, ce qui n'était pas souvent le cas des Babyloniens. On mettait facilement les gens dans la fournaise ardente pour une petite question. Pour un petit problème, on vous poussait dans la fournaise ardente si on ne vous poussait pas dans la fosse aux lions. Mais use de compassion envers les malheureux et tu rachèteras tes iniquités. Non, tu mettras un terme à tes iniquités et ton bonheur pourra se prolonger. Oui, donc c'est très important. Et ce qui fait que nous avons besoin de nous manifester cela, non pas juste en le disant, mais quand on voit qu'un frère a des problèmes ou une sœur a des problèmes, il est bon de prier pour le frère, de prier pour la sœur. Et sans devoir chaque fois faire preuve de voyeurisme, voulant absolument tout savoir, n'êtes pas obligé de tout savoir. Quand quelqu'un est dans la misère, il est dans la misère. Vous voyez qu'il est dans la misère. Donnez des tuyaux, donnez des conseils, comme Daniel vient d'en donner, n'est-ce pas? Et pour cela, on a besoin de la sagesse de Dieu. Que Dieu nous donne la sagesse, à ce moment-là, on donne un conseil pour, de manière à ce que la personne mette un terme à une certaine manière de vivre. Dans Luc 10, tout le monde sait que Josué a maudit Jéricho. Il a maudit celui qui rebâtirait Jéricho. Et tout Israélite, surtout habitant Jérusalem, devait être au courant de ça. Il devait le savoir. Ce qui n'a pas empêché ce frère, quand même, à aller voir un peu à Jéricho comment les choses se passaient. Dans Luc 10, Jésus raconte, on connaît la parabole, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et un sacrificateur, les sacrificateurs, ce sont ceux qui lisaient la parole de Dieu dans les synagogues. Mais il voit ce monsieur qui est tombé au milieu des brigands, certainement, le sacrificateur a dû se dire, celui-là, on lui a prêché à maintes reprises, il n'a pas voulu écouter, et voilà ce qui devait arriver. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Père Branham dit, mort spirituellement, vivant naturellement. Et le sacrificateur, lui, il passait là-bas fortuitement. Bon, descendait par le même chemin. Lui, il a eu la grâce de ne pas tomber entre les mains des brigands, parce que c'était le même chemin. Nous, nous passons aussi parfois par le même chemin que certaines personnes, mais nous nous en sortons. C'est une grâce divine. Et non pas juger la personne. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Non, il a fait comme si il n'a rien vu. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il l'a vu. Et vous savez, les Samaritains, comme il est dit dans Jean 8, 48, c'était des gens considérés comme étant des gens de mauvaise vie. Vous voyez, Jean 8. Ce sont les Juifs qui s'en prennent au Seigneur et lui disent, les Juifs, verset 48, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ?» Oui. Et que tu as un démon. Or, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs parce que justement, ils étaient considérés comme ayant une mauvaise vie, comme cette femme. Où ça ? Au puits de Jacob, la Samaritaine, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle devait plutôt inspirer de la pitié chez des gens. Des gens devaient essayer d'avoir pitié d'elle. Imaginez-vous, elle a eu 5 maris, aucun n'est resté avec elle. Ils sont partis. Les gens aurait dû éprouver de la compassion pour elle. Elle se serait bien trouvée au milieu de ces gens-là. Mais elle y allait quand il n'y avait personne. Pourquoi ? Parce que le regard des hommes était des regards moqueurs, était des regards de jugement, hein, n'est-ce pas ? Pour montrer qu'effectivement, c'est une prostituée. Et c'est là où David dit, non, je ne voudrais pas tomber entre les mains des hommes. Les hommes sont vite juges. Jugent beaucoup trop vite. Et tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mon père a adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Oui, mais c'était différent. Cet homme lui parlait d'une manière différente. Cet homme lui demandait de l'eau et puis cet homme lui parle sur ses malheurs à elle, et elle comprend qu'en fait, cet homme, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. Pourquoi ? Parce qu'il manifeste justement cette nature divine, n'est-ce pas ? D'avoir compassion. Hein, on a sauté dans Jean 8, verset 1, cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Les hommes étaient... Ils sont venus directement brandissant la loi de Moïse. Jésus n'a pas, il ne leur a pas dit qu'ils avaient tort. Il ne leur a rien dit. Hein. Ils lui ont posé la question, toi qu'est-ce que tu en dis ? Moïse a dit qu'on doit les lapider. Alors toi maintenant, toi qui viens nous donner des leçons, qu'est-ce que toi tu en dis ? Jésus n'a rien dit. Il se rendit à la montagne des Oliviers Verset premier, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, en plein milieu d'enseignement, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous savez, elle est déjà fautive. Ce qui fait, lorsque vous l'attrapez, c'est quelqu'un qui n'ose même plus lever le regard. Et maintenant, il faut aussi être fort que pour pouvoir lapider la personne. Ce sont les hommes. Il y a très longtemps, j'étais encore ado à l'époque, ça fait longtemps, n'est-ce pas? À l'école, j'étais en humanité, et devant l'école, il y avait un magasin, un supermarché, pour ceux qui connaissent Kinshasa, à l'église Sainte-Anne, là. Il y avait un supermarché, et un voleur avait volé le sac d'une des femmes qui travaillait dans le supermarché, on appelait cela la SEDEC, le supermarché. Et il a volé le sac et il s'est mis à courir. Alors, les cris ont retenti au voleur. Alors, il y avait des jeunes qui étaient très rapides, hein, qui ont couru après le voleur et puis on l'a attrapé. Alors, vous savez, un voleur là-bas, quand on l'attrape, il passe un très mauvais quart d'heure. Et il recevait des coups. Quand je suis arrivé tout près, je n'avais vraiment pas le cœur à donner des coups. Quand il vous regardait dans les yeux, il pleurait. Je n'ai pas pu continuer à voir, je suis parti. Mais par après, j'ai appris qu'ils l'ont battu à mort. Oui, c'était un voleur, d'accord, mais... Vous savez, on ne sait pas comment est-ce qu'il en est arrivé là. Comment en est-il arrivé à voler? Il n'a pas de travail, hein, il n'a pas pu étudier. C'était encore un jeune homme, puisqu'il était réellement battu à mort parce qu'il y a la police qui était venue à l'école par après poser des questions. Mais bon, ceux qui étaient là ont répondu, mais vous savez, chez nous, ça se passe comme ça. Mais quand Dieu vous attrape à voler, il ne va pas vous battre à mort. Ouais. Mais vous n'avez pas à voler. La loi dit qu'il ne faut pas le faire. Ouais. C'est faut avoir ce cœur-là pour en arriver jusqu'à battre quelqu'un. Et quand vous le voyez agoniser là par terre, vous voyez qu'il commence à convulser. Laissez-le tranquille, mais non, ils ont continué à le battre. Ça, c'est l'homme. Et David dit, j'aimerais pas tomber entre les mains des hommes. Parce que quand le regard que ce monsieur avait, ce jeune homme avait, je crois que s'il adressait ce regard à Dieu, Dieu lui aurait pardonné. Ouais. Donc, notre ami ici, sur le chemin de Jéricho, c'est juste le Samaritain qui a eu compassion de lui. C'est le Samaritain qui a eu pitié de lui. Il était dans un état terrible. Et Jésus pose la question. Quand il demande... aux Juifs qui étaient là, il pose la question aux Juifs là, qui lui avaient posé la question. À ton avis, qui était le prochain de ce monsieur? Donc, au verset 36, il pose la question, lequel de ces trois, donc du sacrificateur, du Lévite, et du Samaritain, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Et nous avons vu dans Exode 34, le fait que Dieu soit miséricordieux, c'est ce qui fait qu'il peut éprouver de la compassion en ce qui nous concerne. Il est riche en miséricorde. Quand vous lisez dans Éphésiens 2, hein, où nous étions autrefois des enfants, fils de colère, des fils de rébellion, ce qui change le décor de cette description, c'est le « mais ». Mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'est ce qui change la chose. Et c'est ce qui doit changer les choses aussi dans les assemblées. Il ne faut jamais être indifférent à la douleur des autres. Il faut toujours se mettre à la place des autres. Et quand vous vous mettez à leur place, vous comprendrez mieux. Parce que c'est presque impersonnel, souvent, quand on amène une feuille de papier, bon, priez pour moi parce que j'ai quelques problèmes. Ben, je prie parce que c'est dit. Mais si je ne vois pas sa misère, je vais prier ici, une fois sorti, je vais oublier. Mais si je vois la misère du frère ou de la sœur, ça va me poursuivre jusque chez moi. Et alors, si Christ vit en moi, Christ exercera sa miséricorde envers la personne. Parce que moi, je peux hausser les épaules et puis continuer mon chemin. Quand vous voyez parfois quelqu'un qui est dans des problèmes, vous n'osez pas regarder la personne tellement son problème est grand. Mais David, durant ce témoignage, dit « Les compassions de Dieu sont immenses. » Immenses. Et il dit aussi « Elles ne sont jamais à leur terme. » Jamais. Ça ne finit. Vous n'épuiserez pas. On peut tous avoir des problèmes ici, tels que nous sommes présents. Dieu peut avoir pitié de chacun de nous. On n'épuisera pas. Dieu ne dira pas, ah, mais j'ai déjà eu pitié de l'un, ça suffit. Non. C'est toujours présent. Lamentations, chapitre 3. On suscite la compassion quand on est misérable. David était dans une profonde angoisse quand il dit « Les compassions de l'Éternel sont immenses. » Verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Il y a une de mes filles qui m'a appelé dimanche, elle m'a dit, oh, papa, est-ce que ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Ça vous touche. Quand il vous dit, on me dit, c'est un petit, ça va. Moi, je dis, non, ça va. J'ai essayé de remettre un bon ton. Hein. Mais non, ça va, je suis juste fatigué. Mais vraiment, c'est un petit, ça va. Mais ça montre que la personne a eu pitié de vous pour mon frère ici. Et un jour, il me dit, il veut prier, il m'a suivi ici au bureau, il a prié pour moi. Il me dit, quand je t'ai vu monter sur l'estrade, on voit bien que tu t'efforces lorsque tu montes sur l'estrade. Ouais. Ça, c'est vous vous mettez à la place de l'autre, vous voyez comment il monte les escaliers, il monte les petites marches, il n'y a que deux marches ici, ça pose des problèmes. Ça vous remonte le moral. Ouais. Et je crois que c'est une question où quand on voit quelqu'un qui se met un peu à l'écart, on le trouve, on dit, mais ne te mets pas à l'écart, tu es ici, au milieu de tes frères et de tes sœurs. S'il y a un problème, dis-le, on va voir. Si on peut le résoudre, si on ne peut pas, ben on priera. Dieu résout tous les problèmes. Mais il ne faut pas se mettre à l'écart. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Non seulement elles sont immenses, David dit, elles sont grandes, sont très grandes. Psaume 119. Verset 153. Oui, il y a toujours cette misère qui revient. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. C'est un sentiment qui sied aux chrétiens, d'avoir de la compassion pour les autres. Parce que notre Dieu est plein de compassion. Un chrétien est semblable à Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu, je crois que c'était des lépreux ou des aveugles, je crois que c'était des lépreux en dehors de la ville. Ils ont commencé à crier, Fils de David, aie pitié de nous. Et il a été ému de compassion. Donc, ce qui signifie que, sachant que Dieu est compatissant, lorsque nous passons une sombre vallée, c'est bien d'en arriver à susciter les entrailles de compassion de Dieu. Il faut en arriver jusque-là, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de vous. Si vous avez un problème, vous priez et puis 3 minutes après, vous vous levez, vous courez dans tous les sens, vous oubliez, Dieu oublie. Mais si vous lui manifestez que vous en souffrez vraiment, Dieu, vous savez, Israël a mis du temps. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils ont crié pendant un certain temps. Les cris d'Israël sont parvenus à Dieu. Mais bon, Dieu les a entendus crier, puis à un moment donné, Dieu est descendu. De cette femme dans Luc 18, cette femme qui importune le juge, il lui dit, rends-moi justice, rends-moi justice. En ce qui concerne ses élus, Dieu est sensible à leur misère. Dieu est sensible à votre misère. Si chez vous, ça ne va pas plus loin que ça, eh ben, ça n'ira pas plus loin que ça avec lui non plus. Mais il faut vraiment que vous sentiez votre situation comme étant misérable. Qui ça, c'est Paul qui dit qu'il se trouve misérable. Et Dieu a entendu sa prière. Je crois que c'est Romains 6. Et ne vous relâchez pas, s'il vous plaît. Romains 7, pardon. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Quand il fait ce qu'il hait, il n'en est pas fier. Personne ne l'a attrapé. Hein. Faut pas qu'on vous attrape pour que vous manifestiez que ce que vous haïssez. Non, vous haïssez cela. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi, n'est-ce pas, cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Vraiment misérable. Sentir que vous l'êtes. Et alors là, effectivement, vous allez titiller la miséricorde divine. Tant que vous ne sentez pas votre misère, vous serez comme le méchant. Mais il faut sentir la misère. Il faut sentir la misère. Quand vous avez attristé Dieu, il faut le sentir. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et ainsi, par après, on appréciera cette délivrance que Dieu nous accorde. On pourra l'apprécier. Une fois qu'on est hors de cela, qu'on est en paix avec soi-même, c'est que c'est bien. Ça va? Il faut être en paix avec soi-même pour être en paix avec le prochain. Et le prochain, n'est-ce pas? Jésus nous montre c'est quoi un prochain. C'est quelqu'un qui sait manifester de la sympathie, de l'empathie, de la compassion pour vous. C'est votre prochain. C'est celui qui est votre prochain. C'est celui-là qui était le prochain de cet homme qui s'est fait battre sur le chemin. N'est-ce pas? C'est le Samaritain qui était son prochain. Et c'est à cela que Dieu nous conduit. Dieu veut que nous soyons vraiment un. Dieu veut que nous soyons un. Et quand nous nous regardons, avant de faire quelque chose, il faut regarder si la chose que vous faites ne blesse pas votre frère, ne blesse pas votre sœur. Mettez-vous chaque fois à la place des autres avant de faire quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, c'est une leçon que tu nous donnes toi-même. Nous, malgré nos rébellions, malgré nos désobéissances, tu es toujours prêt à nous accueillir. Comme disait Néhémie dans sa prière, à chaque fois que Israël jetait ta loi derrière le dos, lorsqu'il revenait à toi, ta miséricorde te poussait à revoir ta situation, ton jugement sur eux. Tu les reprenais encore, mais ils retombaient, tu ne te lassais pas de les reprendre. Parce que tu voyais dans quelle misère ils se trouvaient, selon que ta parole dit, on sait voir lorsque on vit sans Dieu, lorsque l'on vit sans toi, on est vraiment misérable. Nous te demandons de bien vouloir changer nos cœurs comme tu l'as promis, de nous donner ces cœurs qu'il faut. Ces cœurs, ô Dieu, qui sont sensibles, n'est-ce pas? Ils sont sensibles, en fait, de t'être agréable. Car c'est ce que tu demandes, c'est que nous aimions les uns les autres. Ce que tu nous demandes, c'est que nous puissions user de prévenance les uns envers les autres. Que tu bénisses tes enfants. Que tu sois avec nous, que tu nous guides, que tu nous conduises. Et que, Seigneur, ô Dieu, que ta parole puisse demeurer dans nos cœurs. Que cette vérité que nous avons besoin de connaître Puissions-nous avoir les yeux ouverts pour les reconnaître et ainsi te dire merci et te dire, ô Dieu, et ainsi pouvoir marcher de manière à t'être agréable. Te bénissons pour tous tes bienfaits. Bénissons ton saint nom, ce nom merveilleux que tu nous as laissé. Oh, ce nom de Jésus-Christ par lequel nous te prions ce soir. Et te remettons notre chemin du retour. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement.